embouteillage sur le canal 72. 7-2.
Bonjour Quito, merci de faire cette conversation avec nous. Je voudrais qu'on parle ensemble du Vendée Globe. Tu l'as tenté 3 fois. Malheureusement, tu n'es pas allé au bout. Il s'est passé plein de choses. La première fois, c'était en 2008-2009. Dès le deuxième jour de course, il y a eu une tempête quand même relativement, enfin très forte, dans le golfe de Gascogne, c'est ça? C'était assez compliqué.
Oui, il y a eu quand même pas mal d'histoires là sur ce Vendée Globe. C'est pas simple. Le premier a duré 28 heures, le deuxième 4, et le troisième semblait plutôt bien parti parce que là j'avais fracassé mon record. Ça faisait un mois que je naviguais et là ça s'est terminé voilà un peu différemment quoi le premier.
On va s'attarder sur le troisième. Sur le premier, tu n'es pas tout seul quand même à être très embêté. Il y a Alex Thompson, Yannick Bestaven et Marty Arcelin qui abandonnent aussi dans ce gros coup de vent. Et Michel Desjoyeaux qui est obligé de revenir au sable, de réparer pour repartir après. Et lui, il va bien réussir. Le deuxième Vendée Globe, tu percutes un chalutier, si mes souvenirs sont bons. Pareil.
Exactement.
Tu n'es pas tout seul dans ce cas-là. Il y a Bertrand De Brock et Louis Burton qui fait pareil, qui ont les mêmes mésaventures. Il y a aussi Samantha Davis qui dématte un peu plus loin, Jérémy Bayou. En fait, les Vendée Globe, souvent, il y a des débuts de course qui peuvent être compliqués. On sait que le golfe de Gascogne, c'est une des mers les plus compliquées aussi, que le début de course du Vendée Globe est compliqué. Et effectivement, sur le troisième, tout se passe bien, tu fonces, tu arrives dans l'océan Austral, à la limite avec l'Indien, je crois, et là, ça va se compliquer.
Ouais, ça se complique. Alors, c'est vrai que j'avais eu l'impression, en fait, ça se passait bien, le bateau était nickel, j'avais plutôt bien géré la première partie de course, la descente de l'Atlantique qui est longue, hein, puisqu'il a fallu presque un mois pour arriver jusqu'au Kerguelen. Donc, ça se passait plutôt pas mal, même si les premiers avaient notamment les deux foilers qui passaient en tête, là, qui étaient Hugo Boss et Banque Populaire était quand même assez loin déjà. Voilà, mais les conditions avaient été plutôt profitables pour les bateaux à foil. Et donc, ils nous avaient mis un caramel. Et moi, j'étais plutôt bien placé. Je crois que j'étais 9e quand il m'est arrivé cet incident.
Rappelle-nous, c'était quoi ton bateau à ce moment-là?
Le bateau s'appelait Bastidotio. C'était l'ancien bateau de Jean-Pierre Dick, qui s'appelait à l'époque, enfin sur l'avant-dernier Vendée Globe, Vierbeck-Paprec 3. Hein, c'était un plan verdier, très bon bateau, qu'on avait récupéré un an avant. On avait finalement racheté aux Espagnols, qui avaient racheté ce bateau-là après le Vendée Globe. Et donc, c'était déjà une opération pas simple. Parce que ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que les Vendée Globe, c'est la partie visible de l'iceberg, c'est finalement la course. Et la partie qui est moins visible, bah, c'est l'avant-course, les problématiques pour réunir un budget, trouver un bateau, le préparer. C'est un peu le parcours du combattant. Et ça a été quand même une préparation difficile. Mais néanmoins, j'étais assez fier d'avoir ce bateau-là, d'avoir un joli projet finalement au départ du Vendée Globe sur le ponton. Des sables, on avait l'impression d'avoir bien travaillé et d'avoir un bateau qui était prêt. Voilà, ce qui n'est jamais gagné finalement.
Il était fiable, selon toi, il était fiable, il était optimisé, non, il n'avait pas été modernisé avec des foils, etc. Il était resté.
Non, on avait un budget qu'on était un peu intermédiaire. Il y avait, sur le Vendée Globe, il y a plusieurs types de projets. Donc, il y a des projets gagnants avec, là, c'était donc en 2016. C'était l'arrivée des foilers avec beaucoup d'argent. Il y en avait au moins 5 ou 6 qui étaient vraiment très près. Évidemment, bon, il y avait Hugo Boss, il y avait Banque Populaire, mais il y en avait d'autres. Il y avait Safran, il y avait Vierbeck pas près, qui n'était pas Vierbeck d'ailleurs, c'était Michel à l'époque, il me semble. Il y avait Safran, il y en avait, j'en oublie, mais il y avait Edmond Rothschild. Donc, il y avait des bateaux qui étaient particulièrement bien affûtés pour ce Vendée Globe avec des budgets très conséquents. Voilà. Des projets, on va dire, aventures avec finalement des bateaux et des teams qui partent avec très peu de moyens, des bateaux qui sont très vieux. Et nous, on était juste un truc intermédiaire, un très bon bateau qui était capable de gagner le Vendée Globe. Si tenté, le pari, c'était que les foilers n'aillent pas très très loin.
C'est ce que ouais, c'était les... Vous étiez les seuls bateaux, quoi.
Voilà, exactement. Ouais. Donc, on avait un bateau qui était fiable, qui était un bon bateau, et bien préparé. Après, finalement, c'est la troisième édition du Vendée Globe pour mon équipe, et on commençait à avoir un peu d'expérience.
Alors, toi, tu es dans la descente des deux Atlantiques, et ça s'est bien passé, des bonnes conditions, le poteau noir correct, des premières tempêtes.
Oui, alors, en fait, les conditions se sont dégradées au fil du temps. C'est-à-dire que ça a profité aux bateaux les plus rapides. Et moi, j'étais finalement entre le premier groupe et le deuxième qui avait beaucoup, été très, très ralenti par le poteau noir, justement, et puis l'Atlantique Sud qui avait été pas facile à traverser. Donc, on avait finalement, moi, j'étais celui qui avait un peu ramassé, mais pas trop par rapport à ce qui était derrière. Et d'ailleurs, j'étais un peu tout seul. Voilà, j'étais un peu décroché du premier groupe, du groupe des huit bateaux qui étaient devant. Et par contre, j'avais moi distancé de même les bateaux qui étaient derrière. Mon poursuivant direct au niveau de l'île de Crozet était Louis Blurton, qui était déjà 800 ou 900 milles derrière moi.
Ouais, donc pas mal, quoi. Tu avais de la marge, quoi. Et toi, tu étais en…
J'ai regretté d'ailleurs à ce moment-là.
Ouais. Toi, tu étais en forme. Le bateau il y avait déjà eu du bricolage nécessaire à bord ou…
Le bateau était nickel, j'avais juste un problème de voile, j'avais perdu un jenaker, le jenaker de brise au début de la course, que j'avais réparé et qui malheureusement a recraqué au début de l'océan Indien, voilà, sur un départ OTA, un grain à 40 nœuds, le truc il est parti en vrille. Donc c'était la seule avarie que j'avais à déplorer à ce moment-là.
Et alors, quand on voit les images vidéo, quand elles nous arrivent, on voit ces bateaux là qui glissent au portant sur des mers un peu démontées, etc. On les voit rarement partir au tas. C'est des choses qui arrivent souvent. C'est de temps en temps.
Alors, on essaye de faire en sorte que ça n'arrive pas souvent parce que ça fait évidemment…
J'imagine.
Et ça génère quelques dégâts en général. Donc, ouais. C'est vrai qu'on a des bateaux qui sont assez géniaux de ce point de vue-là. C'est qu'on arrive à avoir des vitesses moyennes de l'ordre de 15, 16, 17 nœuds, voire plus, avec des bateaux qui sont très, très stables, une trajectoire. On a des pilotes automatiques qui fonctionnent de mieux en mieux. Et donc, c'est un vrai plaisir. Alors, c'est assez impressionnant à bord, surtout quand on est à l'intérieur. Mais c'est vrai qu'on a des bateaux qui sont géniaux pour ça. Hein. C'est des bateaux qui glissent, qui n'aiment pas beaucoup remonter au vent, mais dès que ça glisse, même dans des conditions de mer importantes, jusqu'à il y a 8, 9, 10 mètres de creux, c'est assez impressionnant ce qu'est capable de faire le pilote automatique pour gérer le truc. Alors, c'est vrai que de temps en temps, il y a des sorties de piste. Hein, voilà, on arrive à partir au tas, mais en général, ça dure pas longtemps. Voilà. Et puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les conditions sont très, très instables dans le sud. Ouais. Donc, dans les dépressions qui sont générées dans le sud, dans les mers du sud, le vent passe de 20 nœuds à 40 nœuds très très rapidement, et c'est super difficile d'avoir la bonne toile. Alors, c'est vrai que quand on est toilé pour 40 nœuds, évidemment, quand il y en a 20, on est sous-toilé, et inversement, quand on est toilé pour 20 nœuds et quand il y en a 40, c'est un peu too much. Donc, il faut gérer ça et c'est un peu la grande difficulté. Voilà,
D'accord. Ah oui, on imagine que vous rentrez dans un train des dépressions et que du coup, à partir de ce moment-là, il y a 40 nœuds constants. Non, pas du tout. Quoi. Il y a des hauts et des bas.
Non, c'est pas tout ça. Oh. Bah, quelque part, heureusement. Voilà, mais c'est vrai que il y a des grosses différences de pression en permanence toute la journée. Et c'est effectivement très difficile de gérer. Donc, il faut mettre un peu de bâche pour aller vite et gérer les écoutes quand ça monte fort.
Ok, c'est, alors c'est, on va dire
un exercice compliqué.
Alors, tu vas rectifier parce que je suis souvent dans l'approximation, mais tu es parti depuis un mois en course à peu près. Tu quittes l'Indien, tu rentres dans les mers australes, c'est ça? Quelles sont les
Ouais,
conditions?
c'est ça. Ça faisait quelques jours déjà que j'avais passé, voilà, le cap de Bonne-Espérance, le cap des Aiguilles. On était déjà à sud, ça commence à cailler fort quand même, parce
Ouais.
qu'on est dans une période qui est réputée difficile, et qui l'est forcément parce qu'il y a une tempête tous les jours, il y a beaucoup de mer, il fait froid, et puis surtout, il n'y a pas de filet, c'est qu'il n'y a personne pour venir nous chercher quand il y a un
Ouais.
problème.
On rappelle, je sais pas si, je crois que c'est juste avant, il y a un concurrent japonais qui a déjà dématé. Il y a Sébastien Josse qui a cassé ses feuilles. Je crois que c'est avant Thomas Barry. Comme
Oui,
ça.
c'est juste la même nuit, je crois, c'est la même journée.
Ouais, ça tabasse, quoi.
Enfin, voilà, c'est la période où il y a quand même pas mal de dégâts dans la flotte. Il y a pas mal d'avaries. Il y a des gens qui réparent, il y a des gens qui peuvent pas réparer. Et c'est vrai que le début de course, enfin, cette partie-là, cette semaine-là, quand tous les bateaux sont dans les biens ou presque, ça, il commence à y avoir un peu de dégâts dans la flotte.
Ok. Il fait nuit? Il fait jour?
Alors, c'est le matin qui se lève.
Ce matin qui se
Voilà,
lève,
il fait
il y a du
plutôt
vent?
beau, il y a du soleil, mais il y a du vent fort, il y a entre 30 et 40 nœuds, il y a beaucoup de mer, le bateau va vite, mais finalement, ça va bien. Voilà, je marche entre 15 et 20 nœuds, quelquefois un peu plus quand le bateau part en surf dans les vagues, mais je gère à peu près cette période-là, ça va vite, et puis je commence à réfléchir surtout comment la semaine va se passer. Avec, en bout de semaine, finalement, déjà l'Australie qui arrive et avec la possibilité de revenir un petit peu sur les bateaux qui sont devant. Donc, finalement, les conditions sont plutôt pas mal. En tout cas, ça s'améliore un petit peu. Voilà, il y a 2, 3 jours encore de vent très fort et puis les conditions vont finalement être assez stables jusqu'à l'Australie. Donc, finalement, tout va bien à bord de Bastidotio. Ce matin-là, et puis d'un seul coup, j'étais en train de me préparer un café, j'allais sortir justement pour vérifier sur le pont si tout allait bien. Et puis là, il y a un choc très sévère, le bateau s'arrête, ça fait vraiment beaucoup de bruit, un bruit très sec. Voilà, donc je sors immédiatement dans le cockpit, et puis là, je vérifie évidemment qu'il y a des documents, qu'il y a des safrans. Et le bateau continue à aller vite, tout a l'air normal à peu près. Voilà, dehors, en fait, il n'y a pas de problème visible. Et donc, je repars à l'intérieur pour aller regarder au niveau de la quille s'il n'y a pas un problème. Et en ouvrant le capot qui est au-dessus du pit quille, là, je m'aperçois qu'il y a un problème, il y a un jeu anormal dans la quille. Voilà, et je me dis qu'il y a un vrai problème sur la quille.
De toute façon, avec le choc, tu sais que tu as touché quelque chose
Ah oui.
et tu sais qu'il y a des dégâts déjà. Enfin, ça peut
Je ne sais
pas.
pas s'il y a des dégâts. Je sais pas s'il y a vraiment des dégâts. En tout cas, je sais qu'il y a eu un choc très violent. Et donc, j'ai besoin d'en savoir plus, savoir s'il y a des dégâts. Donc, je décide de ralentir. Donc, j'abats de 10 ou 20 degrés pour mettre en vente arrière. Je roule ma voile d'avant, qui était une trinquette, à ce moment-là. Donc je ralentis fortement, je passe de voilà 15-20 nœuds à 10 nœuds, voire un peu en dessous, et je retourne voir la quille pour savoir un peu plus. Et quand j'ouvre le puits de quille, là je vois la quille descendre sous mes yeux vers le fond. Alors elle était encore tenue par le vérin de quille, et en fait la partie arrière qui est descendue, qui s'est arrachée, qui est descendue avec le bateau, avec la gravité finalement de la quille, qui est descendue. Tant que j'allais vite. L'incidence qu'il y a sur la quille, quand elle est inclinée à 40 degrés, la vitesse fait qu'il y a plutôt une traction vers le haut pour soulever un petit peu le bateau. Et le fait de ralentir, en fait, c'est la gravité qui finalement a entraîné tout l'ensemble vers le fond.
D'accord, ok.
L'avarie, elle était de toute façon là, hein, ça s'est
Et
passé
donc là,
plutôt
tu as
vers
une
l'arrière.
quille. Non, tu as une quille qui est encore suspendue, mais qui tient très
Alors,
mal.
c'est pire de plus avoir de quilles, parce que si j'avais plus de quilles du tout, si elle s'était séparée du bateau, j'aurais pu continuer à naviguer dans une condition évidemment un peu scabreuse. Il y a d'autres bateaux qui l'ont fait, Safran avant moi, d'autres bateaux, Jean-Pierre Vic de la même manière. Donc il y a une possibilité de continuer, voilà, à remplir les ballasts, de stabiliser différemment, de ralentir évidemment, d'enlever de la toile. Mais j'aurais pu mettre le cap vers le nord et sauver le bateau. Maintenant, la quille a été encore tenue par le vérin. Et en fait, c'est le vérin qui était, au lieu d'être à l'horizontale, qui est devenu à verticale, qui a généré une voie d'eau encore plus importante. Et à chaque vague, le vérin agrandissait le trou finalement du bateau. Donc, une solution très périlleuse. Avec de toute façon une voie d'eau qui rentrait dans le bateau.
Qui rentrait en permanence.
Et donc, aucune solution. J'avais pas les moyens pour détruire la tâche du vérin parce qu'on fait des bateaux quand même qui sont solides, donc des vérins en titane qui sont difficiles à casser comme ça, voilà, avec les moyens. C'est ce qu'a réussi à faire Hugo Boss il n'y a pas très longtemps.
Sur la Transat Jacques Vabre, il a réussi à larguer sa quille, quoi.
Voilà, mais les conditions n'étaient pas les mêmes. Ils étaient dans un anticyclone, donc pas de mer. Et ils étaient deux à bord avec un peu de matériel pour ça, que je n'avais pas à ce moment-là.
Dans ces conditions, donc tu as de l'eau. La première action, c'est quoi? C'est t'actionnes une pompe, sans doute, pour commencer à étaler.
Oui, alors globalement, la première décision que je prends, c'est je comprends très, très rapidement, une fraction de seconde, quand je vois la quille descendre sous le bateau, que le Vendée Globe il est par terre, ouais. Et surtout je suis en danger, et que la priorité qui était pour moi de terminer le Vendée Globe devient sauver ma peau, et donc j'appelle immédiatement mon équipe technique. Il y a une petite cellule de crise qui se met en route, qui était déjà prévue parce que tous les concurrents se soumettent à cet exercice un peu particulier de prévoir le pire avant de partir. On sait qu'il peut y avoir des tas de trucs, bon, des avaries plus ou moins graves, et surtout des problèmes le mec qui tombe à l'eau, plus personne qui répond à bord, etc. Donc il y a une cellule, un document qui est transmis à la fois à la direction de course, mais aussi aux sponsors et aux communicants autour du projet, pour finalement essayer de trouver des solutions, ou en tout cas des moyens de communication cohérents pour soit ne pas inquiéter, soit en tout cas de gérer la crise. Donc très vite, Hervé, il appelle tous les gens concernés par mon histoire, à savoir les sponsors, l'organisation de course, Jacques Carès en particulier, et puis la cellule communication, pour dire ben voilà, il y a un problème grave à bord, et puis là ça va être ça, il y a urgence à agir. Donc finalement ça se passe, moi j'appelle Hervé, mon directeur technique, qui lui appelle tout le monde, et puis très rapidement il y a Jacques Carès qui me rappelle, qui me dit voilà, on est au courant de l'avarie, comment ça se passe, où tu en es, il pose des tas de questions. Alors je dis ouais, ça, le Vendée Globe est par terre, et par contre, je suis dans la panade, là. Il va falloir venir me chercher. Alors, comme je te disais tout à l'heure, moi, je savais où j'étais, hein, j'étais dans l'océan Indien, je savais que dans l'océan Indien, il n'y a aucun bateau qui navigue, il n'y a plus de route maritime qui fonctionne dans ces endroits-là. La seule façon de venir me chercher, c'était mes concurrents. Donc, ceux qui étaient devant moi, il était hors de question qu'ils reviennent face au vent pour venir marcher. Donc la seule certitude que j'avais, c'était mes concurrents qui étaient derrière, qui allaient passer finalement sur la même route ou à proximité, notamment Louis, mais qui était à 800 ou 850 milles de ma position. Donc il lui fallait au moins 2 jours pour arriver sur place. Donc il fallait que je tienne 2 jours, voilà, dans les conditions dans lesquelles j'étais. Donc ça, j'étais pas sûr du tout que le bateau tienne flotte pendant 2 jours.
Parce que ces bateaux ont des caissons étanches, donc on peut
oui, alors,
à isoler quand même une partie du bateau ou pas.
Oui, alors la première action, c'est de fermer effectivement tous les compartiments qui n'étaient pas, donc isoler finalement la zone où il y avait une voie d'eau, qui est la zone de vie du bateau, la zone centrale où il y avait les batteries, il y avait le moteur, il y avait la bouffe, il y avait des choses essentielles, les vêtements, tout ce qui était sécurité, etc. Donc le bateau, je savais qu'il n'allait pas couler tout de suite, quoi qu'il arrive, je savais que même s'il se coupait en deux, il y avait quand même forte chance qu'il y ait une partie qui continue à flotter. Donc j'étais pas très très inquiet, j'étais plus inquiet sur la durée de ça, avec le risque évidemment que le bateau chavire, et donc déjà je me retrouvais évidemment dans le noir. Alors le problème, c'était le premier problème à laquelle j'étais confronté, c'était, il y en avait deux. Il y avait deux. La première, c'était que l'eau montait, noyait à la fois tout ce qui était moteur et toute la zone des batteries. Et donc, le deuxième problème immédiat, c'était l'énergie. Il y avait besoin de garder de l'énergie pour pouvoir justement arrêter la montée des eaux, hein, assécher le bateau. Et surtout, communiquer avec les uns et les autres. Notamment, Hervé, je voulais garder de l'énergie pour pouvoir téléphoner et prévenir, finalement, garder le contact avec eux.
Et alors, parce que je ne m'en rends pas compte, l'eau, dans ces cas-là, monte vite et c'est impossible à étaler, ou on gère?
L'eau monte très, très vite. Alors, il y a des compartiments. Alors, le premier truc que moi, je voulais absolument éviter, c'est que les batteries soient noyées. Donc, l'eau, évidemment, monte avec la gîte du bateau. L'eau qui rentre dans le bateau commence à circuler un peu partout. Ouais. Très rapidement, il y a un autre problème qui survient, c'est que finalement, avec l'eau et le vérin hydraulique, c'est les tuyaux qui sont coupés. Ouais. Donc, il y a l'huile hydraulique qui se répand partout dans la cellule de vie. Donc, c'est un mélange d'eau et d'huile hydraulique. Donc, ça devient une vraie patinoire. Donc, c'est super compliqué à gérer. Donc, je commence à couper tous les planchers que j'ai sous la main pour pouvoir éviter que l'eau monte trop vite et essayer de gérer ce problème.
Ouais, de confiner. Toi, tu t'es mis en mode sécurité. Tu es en TPS ou tu es encore…
Alors, je ne suis pas mis en TPS tout de suite. Je me suis mis en combi sèche. Voilà, j'étais habillé combi sèche. J'avais ma combinaison de survie qui était pas loin, mais la combi sèche, c'est plutôt mieux parce qu'on reste sec. Voilà. Ouais. Donc, ça, cet avantage-là, de rester sec à l'intérieur. Donc, moi, j'étais en sécurité à l'intérieur, donc il faisait pas trop froid. À l'intérieur du bateau, j'avais mis le chauffage juste avant la collision, donc il faisait encore bon dans le bateau. J'avais à manger, j'avais de l'énergie, et donc voilà, les choses se sont…
Donc d'accord, donc toi tu es plutôt en sécurité, tu es bien équipé, tu essayes de limiter la montée d'eau pour sauver tes batteries et garder des moyens de communication.
Exactement, voilà. Et très rapidement, j'ai su qu'un miracle s'était opéré, c'est qu'il y avait un bateau qui était sur zone, et pas n'importe quel bateau, il s'agissait du Marion Dufresne. Donc, le Marion Dufresne, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le seul bateau qui navigue dans cette région-là et qui ravitaille finalement toutes les îles antarctiques que sont Crozet, Kerguelen, Amsterdam, Saint-Paul et d'autres comme Tromelin. Voilà. Et ce bateau fait des rotations dans ces îles pour amener du gasoil, de la nourriture, du matériel pour les bases arctiques, et il fait ce voyage-là tous les 3 mois. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, il fait ce voyage-là 4 fois par an. Et donc, il est au moment où moi j'ai mes problèmes de voie d'eau, lui, il est une centaine de milles de ma position, et il est à cette position-là que 4 fois par an. Donc, c'est la chance qui est la mienne. C'est que ce jour-là, ce Marion Dufresne descendait vers ma position pour aller vers Crozet.
Et lui, il est rapide.
Donc, ce bateau-là, évidemment, il est rapide. Donc, sa vitesse de croisière, c'est 11 nœuds. Et là, ils ont mis la gomme, donc ils ont été prévenus par le Cross Réunion. Et très vite, j'ai au bout du fil le commandant du Marion Dufresne, qui s'appelle Thierry Dudouy, qui m'appelle, qui me dit, voilà, nous, on est sur zone, on a pris voilà, les déboires, et donc, nous, on est sur zone dans quelques heures pour agir et pour te récupérer. Voilà.
Ah, ça doit être un soulagement énorme à ce moment-là.
Donc ça, c'est un soulagement énorme parce que du coup, je sais qu'il y a un bateau qui est sur zone alors que c'était quasiment mission impossible. Il y a un bateau qui est sur zone au bout de quelques heures et qui vont pouvoir me récupérer. Donc il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. C'est que la mauvaise nouvelle, c'est que je vais devoir évacuer le bateau, même si je savais qu'il fallait le faire. Là, j'ai plus le choix. Mmh. Là, j'ai plus le temps de repli. Même s'il n'y en avait pas, aujourd'hui, avec le recul, j'en avais de toute façon pas.
Ouais. Oui, mais ça reste toujours un crève-cœur d'abandonner le bateau qu'on a préparé.
Ah ben voilà, c'est que ça devient compliqué et je sais que je vais devoir évacuer le bateau dans lequel j'ai mis quelques millions de dettes quand même, qui est ma seule carapace, tu veux, qui est finalement mon le seul objet que je possède. Aujourd'hui, qui peut me protéger, je vais être obligé de le quitter. Voilà. Donc, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, je vais sauver ma peau, mais que voilà, tout le reste, ça s'écroule. Mmh, mmh. Après, finalement 24 heures de survie, parce que je suis resté quand même 24 heures à bord, avec un bruit sinistre, le bateau qui se disloque sous mes pieds. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez difficile à vivre. Et je sais qu'à ce moment-là, à partir de ce moment-là où je sais qu'il y a le Marion Dufresne qui sera sur zone, la deuxième question que je me pose, c'est comment je vais faire pour monter sur ce rafio.
Voilà, comment on prépare cette évacuation? Eux, ils n'ont pas de moyens héliportés, il n'y a pas d'hélicoptère à bord du Marion
Dufresne. Je ne connais pas les moyens du Marion Dufresne. En fait, ils ont un hélico à bord. Ils ont des gros moyens pour décharger du matériel, mais je ne sais pas comment ils vont s'y prendre. Donc, j'imagine mettre contre mon bateau, que ça va faire du dégât parce qu'il y a un mât encore qui est en place et que je vais avoir besoin de beaucoup d'énergie pour grimper sur le bateau. Donc, je me dis, ben là, pendant jusqu'à ce que je sois évacué, il va falloir que tu manges, que tu prennes de l'énergie. Donc, j'ai sorti mes meilleurs plats déshydratés. Et puis j'ai commencé à manger pendant les heures qui ont suivi pour prendre de l'énergie.
La grande bouffe, quoi.
La grande bouffe. Alors finalement, le Marion est arrivé à tomber de la nuit. Donc, j'ai vu ses feux arriver. Donc c'était bien. Ils ont tourné autour pendant toute la nuit.
La mer est comment?
Il y a toujours 7-8 mètres de creux, il y a de la mer forte, il y a toujours du vent. Et par contre, les conditions s'améliorent et donc on décide avec le commandant d'attendre le lever du jour pour qu'il vienne me chercher. Les conditions s'améliorent, il y a surtout moins de vent. Et donc au lever du jour, donc vers 4h, 5h du matin, ils m'ont annoncé qu'ils avaient mis un semi-rigide à l'eau et qu'ils venaient me chercher avec le semi-rigide.
D'accord.
Donc ça a été assez brusque parce que finalement moi j'étais en contact avec eux pendant toute la nuit, toutes les heures ils m'appelaient pour savoir si tout allait bien, s'il n'y avait pas une aggravation de la situation, etc. Ouais. Et donc au petit matin ils m'ont annoncé que le bateau était à l'eau et que un quart d'heure plus tard ils étaient sur zone. Ouais. Et qu'il fallait que je me prépare à évacuer le bateau. Donc moi j'avais eu quelques heures. Quasiment 24 heures pour. J'avais demandé timidement, d'ailleurs, ça me fait sourire ce petit anecdote. Parce que j'avais demandé au commandant si m'autorisait à prendre le deuxième sac pour mettre sur son bateau, comme s'il n'y avait pas la place et que ça allait alourdir son bateau, s'il y avait une déformation professionnelle. Et donc, pendant presque 24 heures, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais mettre dans ce sac? J'avais compris quand même. Le voyage va être assez long, hein. C'est que là j'étais au début de la rotation du Marion Dufresne, donc ouais. Le voyage a duré, j'allais rester pendant un mois sur le bateau, donc j'avais pris des fringues, des polaires, de quoi me défendre du froid, Tout ce qui est évidemment matériel de survie, voilà, mon téléphone par satellite portable, mon téléphone portable, mon appareil photo, enfin deux trois trucs. J'ai oublié pas mal de choses, mais finalement j'avais pris finalement quelques affaires personnelles, voilà, qui m'a permis de faire quelques images sur le Marion, etc. Et donc je suis parti avec mes deux sacs sur le bord. Alors j'ai remis des balises, entre-temps remis des balises de positionnement sur le bateau pour pas le perdre.
Oui, voilà. Alors c'est comment on abandonne le bateau, on fait en sorte, on ouvre tout pour qu'il coule plus vite, on le balise pour le signaler, qu'est-ce qu'on fait?
Alors justement, j'en avais parlé avec mon assureur pendant le temps qui me restait sur le bateau pour savoir ce que je faisais du bateau, parce que ça devenait une épave qui devenait un danger pour les autres concurrents, notamment du Vendée Globe. Donc, c'était ma préoccupation première. Et donc, il y avait la possibilité de le couler complètement, c'est-à-dire d'essayer de le couler, ce qui n'est pas si simple.
Ouais.
Et avec l'assureur, on a décidé de maintenir le bateau à flot et de mettre toutes les balises qu'il y avait à disposition sur le pont pour garder la trace du bateau pour un éventuel sauvetage un peu plus loin.
Donc,
j'avais mis le bateau, alors j'avais bloqué la barre pour que le bateau soit cap au nord-est pour essayer de faire en sorte que sa dérive soit un peu plus nord que sud. Mm-hmm. Et en fait, on s'est aperçu assez rapidement que le bateau, il continuait évidemment à dériver vers l'est avec le vent et le courant dominant. Voilà, mais on avait la trace du bateau. Donc moi, je suis récupéré par le monde de Rennes. En fait, un petit mot sur ce moment un peu particulier où j'évacue le bateau. Donc le semi-rigide a essayé de se mettre sous le vent pour me récupérer. Et puis ils ont aperçu, le bateau bougeait beaucoup. Ils avaient peur d'être entraînés par le bateau. Mm-hmm. Donc ils sont revenus au vent. Et puis au vent, c'était encore plus compliqué parce que le safran qui sortait de l'eau était comme une épée de Damoclès qui risquait de percer le bateau. Donc ils ont vraiment hésité à s'approcher du bateau. Et à un moment, moi, je me suis dit, je vais sauter à l'eau et ils vont me récupérer dans l'eau. Ce sera vraiment plus simple.
Ouais.
Et donc, j'aurais balancé mes deux sacs à bord du Zodiac. Et puis, à un moment, j'ai sauté et je suis tombé dans les bras d'un des gars. Un gars de Fécamp. Hein. Que j'ai revu d'ailleurs plusieurs fois depuis.
Excellent.
Et puis une fois que j'étais sur le semi-rigide, ça s'est passé très très vite, on s'est éloigné et puis on s'est récupéré. Voilà, on était troyé sur le mer du Fresne. Ouais. Et je me retrouvais à bord, voilà, au milieu de 200 personnes hein, qui étaient là, qui étaient tous réveillés, qui ont tous applaudi à la manœuvre. C'était un moment un peu émouvant et j'ai jamais, moi, de mon côté, j'ai jamais détourné le regard vers le bateau. Ouais. Il y a une histoire qui commençait.
Et alors, tu vas me raconter un peu la tournée sur ce bateau, sur le Marion Dufresne, mais pour terminer avec Bastide Ossio, les qu'ont donné les balises, où a-t-il fini? Il s'est échoué?
Alors en fait, dès que je suis monté à bord, alors évidemment j'étais rassuré, voilà, j'étais en vie, et puis là je ne faisais plus grand chose à bord du Marion Dufresne, qui était vachement plus confortable d'ailleurs que mon bateau. J'ai gagné au change.
Je viens de croire.
Et très vite, voilà, la priorité, ça a été comment on fait pour sauver le bateau. Comment on fait pour récupérer le bateau. Il y avait quand même beaucoup de choses. Il y avait des voiles, il y avait le mât, il y avait la coque. Donc, on a commencé à discuter avec le commandant, avec les gens qui étaient à bord, avec l'assureur, savoir comment on allait récupérer le bateau. Alors, dès le lendemain de l'avarie, j'ai reçu des offres de Sud-Africains, notamment, qui se proposaient de venir d'Afrique du Sud pour venir récupérer le bateau. Alors, ça coûtait une fortune et c'était vraiment pas raisonnable. J'ai eu une offre aussi d'un gars qui venait avec un bateau de plaisance pour récupérer le bateau, mais ça, c'était pas raisonnable d'aller dans ces coins-là où il y a de toute façon pas de sécurité. Donc on a abandonné ces offres-là. Et finalement, on a essayé de monter une opération de sauvetage à partir des Kerguelen. Il se trouve qu'il y avait un bateau, un vieux bateau de pêche qui avait été saisi par les douanes et qui était devenu un bateau de scientifique, hein, qui était en stand-by au Kerguelen, qui avait un problème de guindeau, mais qui était à la possibilité d'aller chercher le bateau.
Ouais,
qui était mort. D'accord avec le commandant de ce bateau-là. Pour essayer de faire une mission de sauvetage, il fallait que le bateau se rapproche finalement des Kerguelen, que les conditions météo soient pas trop détestables, ce qui n'arrive quasiment jamais dans ces points-là. Et surtout, il fallait qu'on garde la position la position du bateau. Et donc, pendant une semaine, on a suivi, on avait donc une position toutes les heures, voilà, et puis une position toutes les 24 heures. On a eu deux balises qui fonctionnaient très très bien. On a su pendant 3 jours, donc le bateau dérivait à 3 nœuds quand même, c'était assez rapide dans l'est. Et d'un moment à un autre, il s'est mis à dériver 2 fois plus vite à 6 nœuds. Donc je me suis douté qu'à ce moment-là, ben, la quille avait fini par céder. La quille s'était libérée du bateau, ce qui permettait au bateau d'aller vraiment beaucoup plus vite. Là, le bateau léger et du coup le bateau il marchait à 6 nœuds, il faisait quand même 150 nœuds par jour et toujours dans l'est, donc il se rapprochait finalement des Kerguelen. Il allait passer à 200-250 nœuds des Kerguelen.
D'accord, donc tout ça était bon augure pour une opération de récupération.
Exactement, et au bout de 6 jours, d'un seul coup, le bateau est passé de 6 nœuds, dernière position qu'on a. Le bateau allait à 6 nœuds, toujours dans l'est, et plus de position du tout. Voilà, donc on doute, enfin, en tout cas, moi je suis persuadé que le bateau à ce moment-là a chaviré, s'est mis 2 fois par-dessus tête, et du coup, les balises qui étaient du coup sous l'eau et à tête en bas n'émettaient absolument plus de signal.
D'accord.
Et du coup, on a perdu la trace du bateau, mais je me doutais que le bateau il continuait à flotter. Donc on avait perdu.
Le bateau, il est à sec de toile à ce moment-là où tout est.
Il est à sec de tout, absolument. J'avais affalé toutes les voiles, évidemment. Le bateau est à sec de toile, mais le bateau, on a perdu la trace. Et donc ça devenait pour le coup un vrai danger pour les bateaux qui suivaient les bateaux du Vendée Globe. Donc on a essayé d'estimer la position du bateau avec le courant, etc. Ce qui était évidemment difficile à faire. Et on donnait une position estimée aux concurrents, mais rien de plus. Voilà, et donc on a perdu la trace du bateau. Il n'y a plus jamais d'autres positions, sauf
on a,
au mois de juillet 2019, où un plaisancier de hier qui était en croisière à Madagascar me signale qu'il y avait un bateau qui avait retrouvé une épave qui pourrait ressembler à Bassidotio. Donc, il m'a envoyé des photos de cette épave et effectivement, c'était Bassidotio qui ressemblait plus à grand-chose parce qu'il ne restait plus rien, et qui est arrivé donc à Madagascar. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup surpris parce que Madagascar, c'était le dernier endroit où on aurait imaginé que le bateau se termine.
On peut imaginer qu'il ait fait un grand tour dans l'Indien, du coup.
Voilà, exactement, c'est ce qui s'est passé. En fait, le fait qu'il ait chaviré, il a été entraîné non pas par le vent, mais par le courant. Et en fait, il y a les courants circulaires de l'océan Indien qui, en approchant de l'Australie, remontent un peu vers le nord. Et donc, il a fait cette trajectoire un peu particulière. Il a fait de l'est au début, il est arrivé jusqu'à l'Australie, remonté par le nord le long de la côte ouest australienne. Et puis, il a remonté dans les eaux plus chaudes. Et puis là, le courant s'inverse dans les alizés pour revenir vers l'ouest. Et donc, il a terminé sa route sur les récifs de Madagascar. À mon avis, à ce moment-là, il y avait encore le mât et la coque en entier.
Ah oui.
Et finalement, les coraux ont fini de détruire le bateau. Il a été un peu plus loin sur la plage. Et puis là, ce sont les malgaches qui sont occupés de terminer le travail. Ils ont ouvert le bateau Ils ont découpé à la machette tous les bordés pour récupérer ce qu'il y avait à bord, notamment le moteur, parce que on voit bien que sur les photos, le bateau était à l'envers et le bateau a été découpé au niveau de l'arbre d'hélice.
Donc tu veux dire,
il y a forcément un moteur qui n'est pas loin.
Ce bateau a une seconde vie à Madagascar, finalement.
Exactement, voilà, il a servi de mobilier pour faire des meubles à Madagascar.
C'est peut-être un moindre mal, peut-être. Et toi, si on revient en 2017, on est passé en 2017, je pense, tu es sur le Marion Dufresne.
Non, j'en ai toujours en 2016 parce que finalement, j'ai débarqué moi du Marion Dufresne 30 jours après mon sauvetage. J'ai quitté le 30 décembre 2016.
D'accord. Ils t'ont laissé où ? Au Kerguelen ?
À La Réunion. Ils ont terminé leur voyage. Voilà. Parce qu'il faut savoir. Et c'est vrai que c'est difficile d'imaginer ça aujourd'hui, dans un monde où on est super connecté sur Internet, mais surtout grâce aux avions. Toutes ces îles antarctiques sont absolument pas connectées par des lignes aériennes. Il n'y a pas d'aéroport. Donc, la seule façon d'aller sur ces îles-là, c'est des bateaux. Mm-hmm. Quand on n'a pas le Marion Dufresne, on ne va pas dans ces îles-là. Et puis, surtout, on n'en revient pas. Donc, des gens, notamment des scientifiques, des jeunes qui font leur service civique, des quelques militaires qui sont en charge du maintien des installations, passent 3, 6, voire 12 mois sur ces îles qui sont des vrais cailloux, un peu inhospitaliers. Vraiment du temps et c'est vrai qu'il y a des communautés qui se sont mises en place dans les bases françaises de ces îles-là qui est assez impressionnante. Voilà. Parce que les gens qui arrivent ou qui partent de ces îles-là en gardent évidemment quelques souvenirs, plutôt des bons d'ailleurs.
Et alors toi, je ne sais pas si tes souvenirs sont bons. Mais bon, les 15 premiers jours à bord, je pense, sont visiblement très occupés par les assurances et par le suivi de ton bateau. Et après, le temps est un peu plus long, le temps est un peu plus à la vie de l'équipage ou non, tu es plongé dans les soucis administratifs.
C'est une vie un peu particulière. D'abord, moi, évidemment, c'est quelque chose que je n'avais pas prévu, que je n'avais pas anticipé. Voilà, ça me fait penser d'ailleurs à la période qu'on vit en ce moment, qui est difficile parce qu'elle n'est pas anticipée. Elle n'est pas prévue, anticipée, et du coup, elle est compliquée à vivre. Alors moi, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai une chance incroyable de faire ce voyage, qui est un voyage extraordinaire quand même, il faut bien le reconnaître, d'aller sur ces îles-là, en plus sur ce bateau-là, accompagné tel que j'étais par des gens formidables. Mais c'est vrai que sur le moment, moi, je suis toujours dans mon Vendée Globe. Mon Vendée Globe raté pour la troisième fois, c'est une histoire qui est difficile à porter, qui est lourde. Moi, je suis dans un état psychologique, je suis effondré, hein. je suis complètement emparé par cette mésaventure, par ce manque de chance sur ce Vendée Globe qui se refuse à moi. Donc, c'est vraiment compliqué à vivre, très très compliqué à vivre. Et les gens qui sont sur le Marion Dufresne s'en rendent très vite compte que ouais, je suis pas dans un état finalement très satisfaisant, voilà, socialement. En plus, c'est que c'est compliqué de se retrouver seul dans une aventure très égocentrique qui est le Vendée Globe et de se retrouver voilà dans un équipage de 200 personnes avec des gens qui veulent savoir plus forcément sur le Vendée Globe, sur comment ça se passe. Voilà, donc je suis un peu l'attraction du bord et c'est le dernier de mes envies, c'est d'être l'attraction du bord.
Ouais, je comprends bien.
Donc c'est une vie un peu compliquée où je suis finalement contraint de partager mon désarroi avec plein de gens. Et par contre, effectivement, ce voyage incroyable à bord d'un bateau mythique qui est sur 40 ans, il y a eu deux Marion Dufresne, mais la mission dure depuis 40 ans. Et puis la vie sur les bases de Crozet par exemple, qui est vraiment un caillou, où des personnes qui vivent en communauté très restreinte dans des conditions météo qui sont désastreuses. Et encore, moi j'étais dans la bonne période, c'était l'été austral, Bon, c'est vrai qu'on ne remarque pas trop que c'est l'été, hein, quand même. mais on imagine l'hiver, ce que ça peut donner. Ça, c'est quelque chose de fantastique, avec une faune quand même très particulière, avec des éléphants de mer, des manchots, des albatros. Voilà, une vie, une faune très particulière et une vie forcément interne.
Ok, merci. Dis-moi, le Vendée Globe, dans quelques mois, va repartir pour une nouvelle édition. Tu ne feras pas partie de l'aventure, tu n'es pas à nouveau candidat. Cette course qui t'a échappé, tu l'as dit, est derrière toi, tu ne la regardes plus, ou t'arrives encore à porter un regard dessus.
Si, bien sûr. Ma Vendée Globe, tu sais, ça a été finalement 15 ans de ma vie, quoi. Donc, je suis pas insensible à ce qui se passe. Je vois cette nouvelle édition qui se prépare avec beaucoup de bateaux, avec des bateaux un peu dingues d'ailleurs, qui sont pas exactement comme je souhaiterais d'ailleurs. Je pense qu'on est allé sans doute un peu trop loin dans l'évolution technologique. Je crois que aujourd'hui, on est dans le diktat de la technologie. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Je pense qu'on est allé trop loin. Je crois qu'on n'a pas fait suffisamment la part des choses. Alors, j'espère évidemment que ça se passera bien, mais on sait malheureusement que ça se passera pas bien pour tout le monde. Voilà.
Quand tu dis qu'on est allé trop loin, on est allé trop loin dans les budgets, on est allé trop loin dans le côté technologie fragile pour ces mers éloignées de tout. Où est-ce qu'on pousse le curseur trop loin?
Bah, je pense que c'est la technologie. Je crois que les nouveautés, on voit l'apparition des foils depuis quelques années, et on se sent obligé d'y aller sans tenir compte effectivement des problématiques de coût, des problématiques d'équité sportive, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, c'est pas nouveau, ça a toujours été le cas. Mais c'est finalement l'argent qui fait la différence, c'est pas la qualité du marin qui va faire la différence, c'est la qualité de son sponsor qui va faire le choix. Et ce constat, il s'est finalement amplifié depuis le début, depuis 2005, ça s'est vraiment augmenté, ça a beaucoup augmenté. Il s'est créé un fossé entre finalement des petits budgets et des gros, avec une notion, je pense qu'aujourd'hui, les bateaux ne sont pas marins. Ce sont des mauvais bateaux, finalement. Alors, ils sont très impressionnants. Moi, je suis très impressionné par les vitesses atteintes aujourd'hui par les bateaux. Mais je pense que, par contre, ce ne sont pas des bons bateaux.
Dans leur polyvalence, tu veux dire ?
Trop loin, et on ne tient pas suffisamment compte de la dimension du Vendée Globe, du parcours du Vendée Globe. Avec des bateaux qui sont des engins de guerre où il n'y a plus aucun plaisir de naviguer à bord.
Ok. Eh bien, écoute, en tout cas, je te remercie d'être revenu sur cet épisode. On sent quand même, il y a beaucoup d'émotions encore quand tu le racontes. Je sais que tu suis des projets qui sont toujours dans la voile à côté. Enfin, tu n'as pas raccroché le gilet, le harnais, je ne sais pas comment on peut dire, la barre, tout simplement. Je te remercie de nous avoir fait revivre un peu ce Vendée Globe et cet épisode. On frissonne un peu à l'évocation de toutes ces aventures.
Merci. Voilà, on va suivre la prochaine édition de ce Vendée Globe, en espérant ou pas qu'il y ait plein de nouvelles aventures, en espérant que tout le monde arrive à bon port, quel que soit le port d'ailleurs.
Ouais. Je te remercie, Quito. Merci beaucoup.
Ici Radio Ponton.